France Inter.
C'est la bande originale, Leïla Kadouri-Dadi, avec Daniel Morat et toute la bande, puisque c'est une semaine de vacances scolaires, donc une sélection de nos meilleures émissions.
Et oui,
ça a pas été simple
ce matin, on part à la fois en Corée du Sud, en Bretagne et à Paris, à la découverte de La Vie Heureuse de David Funkinos.
Ouais, si j'étais resté en Corée, ça nous aurait fait des vacances.
Mais ça va pas, non?
Oh, ça va.
Je vais accueillir, toi.
David
Funkinos.
Ça, c'est accueil.
L'année sera funky.
À fond.
C'est ce qu'a crié Leïla dans le couloir.
Ouais, j'ai commencé l'année avec vous, en partie, David, en lecture, j'entends.
Oui. Voilà.
Non, parce que je vous connais. Donc,
mais rien, mais rien du tout. Tout va bien,
ça va très très bien. La dernière fois que je suis venu, vous m'aviez demandé le titre de mon prochain livre. Mm. Je voulais pas le dire. Maintenant, on peut le dire, c'est La Vie Heureuse. J'avais dit, mon prochain livre s'appellera Nagui Mon Amour.
C'est ça.
Et là, j'ai plein de lecteurs qui m'ont dit, mais pourquoi ça s'appelle pas Nagui Mon Amour? J'étais très déçu, il le ramène.
Et moi le premier, mais c'est moi qui vous écris sur les réseaux sociaux. La Vie Heureuse, le nouveau roman de David Funkinos. Avant de parler de ce roman, de l'évoquer, jouons un peu et découvrez
Tristan.
Jean-Jacques Goldman.
Oui.
Oh la vache, ça
fait partie du roman. Un échange de la joie.
Il va peut-être donner le titre d'une suivante.
Avec si vous êtes sympa cette semaine.
Goldman, il changeait la vie, bien joué.
D'accord.
Deuxième titre. Ah, il ne savait pas, ok. Ah si.
Life on Mars.
Non, mais c'est
non, Daniel, David Bowie.
Oui. Change. Changes. Au pluriel même. Un point pour Daniel est là. Il chante ça. Plus pointu. Mais avec la voix, vous allez retrouver.
Ah si. Daniel, Jonas.
Je veux aller où l'air est plus
belle,
doux,
avant que la voix.
Où la colombe vole en dessous. Changez tout, changez tout.
J'aime bien le chanteur, mais j'aime pas l'homme.
Votre son ne tient pas debout. Changez tout.
Ça vous va comme thème par rapport à votre
changez tout.
Exactement, ouais, le changement, la réinvention de soi.
Il vaut mieux dire oui.
Oui, ça va être tout.
Non, pas du tout. Je ne comprends pas le lien.
Qui chante ça?
Daniel Klageba.
Non, mais ça pourrait être une BO de film. Comment ça, c'était une BO de tellement de comédies romantiques.
Sam Cooke.
Pardon?
Pas Sam Cooke.
Joli.
Bravo.
Bravo, Lisa. Merci.
Joli. A change is gonna come.
Ouais, c'est dans un film. C'est Ravis-toi, Barbara. Si. Un film de George Fleck.
Quatre mariages.
George Fleck.
Qui chante ça?
Tristan.
Oui.
Céline Dion.
On a changé.
Oui. Là.
Daniel qui me regarde en coin.
Non, non, mais je suis épaté.
C'est un classique.
S'il faut faire des équipes, je vais avec Tristan.
Ouais.
On ne change pas.
Oh la voix dégueulasse.
On ne cache que
respect. Il défonce tout le monde.
T'es fan?
Non, je suis pas fan, mais moi, quand même une jolie voix.
Non, je suis pas très fan.
Mais arrête d'entrer dans ce débat. Pourquoi tu.
Mais moi, la provocation, j'y réponds tout de suite.
C'est une
coup de boule. Coup de boule. Allez. Qui chante ça?
Ah. Je sais bien, mais.
Micheline Dax.
C'est vrai qu'elle siffle bien. Énorme succès.
Ouais, Bon Jovi, Leïla, Bon Jovi.
Non, mais c'est genre.
Ah.
Brian Adams.
Guns N' Roses.
Non plus, mais c'est genre.
Oui, je sais, mais c'est toute la bête.
Daniel, Scorpion.
Je le sais.
Wind of Change. J'hésitais avec Enrico.
Leïla ?
Mais je sais.
Mais Leïla ?
Oui, je suis. Je suis là.
Mais Leïla ! C'est surtout tout qui va se jouer.
Oh là là, la phrase.
C'est une phrase. Leïla, Eric Clapton.
Ouais.
Pas mieux.
là, ouais.
C'est très frustrant.
C'est du vol ou c'est bien joué?
Non, bravo. C'est...
Bravo. C'est la règle, hein.
Bah, c'est le jeu.
C'est vrai.
C'est le jeu.
Change the world. Et on va pas changer le monde, c'est Leïla qui gagne ce blind test.
Bravo. Bravo.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leïla Kaddour.
David Funkinos, votre nouveau roman aux éditions Gallimard, La vie heureuse. C'est vrai que...
C'est 19 euros.
C'est...
voilà. 22 c'est la... pour toi.
C'est la... c'est la moyenne, il a pas payé un centime, tu rigoles.
J'aime bien la précision de Nagui.
C'est la moyenne. C'est alors, t'inquiète pas, c'est pas Daniel Morin qui va payer un livre.
Il m'en reste
plus que ça. Est-ce qu'on peut continuer?
Mais ça...
Bah, justement, alors tu dirais quoi? Parce que si on ne veut pas...
Cher ou pas cher?
Si on ne veut pas gâcher... Alors, si on ne veut pas gâcher la surprise qu'il y a dans ce livre, toi tu veux la gâcher?
Moi je veux la gâcher. Hein.
Non, ah ouais, faut pas la gâcher.
Il y a un cadeau matériel.
Non, mais surtout ce n'est pas la gâcher que de raconter.
Non, voilà. Certainement pas.
C'est une jolie phrase.
Ah oui.
Moi je crois qu'on peut raconter.
Bah, bien sûr. Ouais.
Donc c'est l'histoire de deux Rennais qui se retrouvent via un groupe Facebook. En tout cas, ça commence comme ça. Avec une femme qui est dans les hautes sphères de la politique à Bercy et qui contacte l'un des responsables de Décathlon, mais qui a une vie pépère un peu triste, tout net, un peu en noir et blanc. En tout
séparé,
cas,
séparé, père d'un enfant qui voit peu. Hugo. Il n'a pas trop pris ses responsabilités.
Il voit peu l'enfant, c'est pas un malvoyant l'enfant. Père d'un enfant qui voit peu. C'est rageux. Ouais. Mais c'est vrai, Nagui, pas. Toi qui es un mec précis.
Le côté de la vie en noir et blanc, quoi.
En noir et noir.
Ouais. T'es en forme, Daniel. Ouais,
je sais pas ce qui se passe.
Ah, ouais. Et elle,
ça
lui,
va pas durer.
Elle lui confie une mission, partir pour la Corée, rencontrer les grands patrons de...
Avant ça, de faire partie de son cabinet, elle est ministre, en fait.
Non.
Ouais, elle travaille au secrétariat commerce extérieur, mais en tout cas, c'est vrai que c'est l'histoire centrale dans le livre, c'est l'histoire de ce couple.
Ouais.
Elle n'est pas encore ministre,
elle
est pas
Il est là, c'est bien.
Et là, c'est vrai que vous voyez beaucoup d'ambition pour cette femme.
En tout cas,
c'est vrai que le livre, c'est aussi l'histoire de ce couple qui était au lycée ensemble. Et puis, 20 ans après, Amélie, voilà, cette femme qui travaille au secrétariat du commerce extérieur, voit sur le groupe Facebook des anciens du lycée Chateaubriand à Rennes le profil de Eric Arson qui travaille chez Décathlon. Et c'est vrai qu'elle a envie d'avoir des membres de la société civile dans son équipe. Il se retrouve un temps après, voilà.
Elle le contacte pour que lui apporte son savoir-faire commercial et pour convaincre la société Samsung de venir s'installer à Mulhouse, ce qui n'est pas une mince affaire en termes de conviction, pour venir fabriquer des trottinettes GPS modernes. Il fait même une vanne en disant le comble de tout, c'est qu'elles seront très bien vendues chez Decathlon où j'étais, et lui, il n'est pas très
la
heureux.
La boucle est bouclée,
voilà,
ouais.
C'est ça.
En tout cas, c'est vrai que j'aime bien l'idée que moi, un de mes modèles, c'était le film quand on rencontre Sally. L'idée qu'on puisse suivre comme ça un couple sur 30 ans, se croiser à 20 ans, se retrouver à 40 ans sans vraiment se comprendre, et puis peut-être progressivement, un peu plus tard, se rendre compte que si la vie a en permanence fait que vous vous croisez, que vous vous chassez, c'est qu'il y a quelque chose à vivre ensemble. En tout cas, l'idée que parfois,
dans un premier temps, il n'y a pas de jeu de séduction du tout entre eux. Il y a même un jeu de chat et de souris.
Oui, exactement. Peut-être qu'on l'attend inconsciemment.
Elle le domine,
je ne sais pas.
Voilà,
ouais. Peut-être
exactement.
Que parfois, il y a des choses qu'on fait et on se rend compte un peu plus tard la raison de nos actions.
Mais en tout cas, notamment cette soirée avant le grand rendez-vous.
À Séoul, oui. Voilà. Quand ils partent en Corée, effectivement, ils ont une soirée. Mais ça, c'est souvent parfois les collègues, comme ça, quand ils sont dans un déraciné de leur vie quotidienne, dans un ailleurs un peu improbable.
Un peu pompette en fin de soirée.
Ouais, exactement. Voilà. Je ne dis pas ce qui va se passer, mais en tout cas, le déracinement du quotidien fait que voilà, ils vont réinventer quelque chose dans leur histoire.
Et la vie va basculer. C'est pour ça qu'il y a ce changement de vie avec lequel je me suis amusé dans le blind test. C'est-à-dire que la vie va basculer lorsqu'il va rentrer un peu par hasard dans une boutique dont le titre va l'accrocher, Happy Life, la vie heureuse, c'est le titre de votre roman. Il rentre dans cette boutique et là, sa vie bascule, c'est-à-dire qu'il va tout plaquer, tout planter, mais redémarrer une vie, une seconde vie, comme s'il était important finalement de toucher du doigt la mort, ce qui arrive dans ceux qui ont des expériences de NDE ou qui ont une grave maladie, ils reprennent goût à la vie après avoir frôlé la mort.
Oui, alors c'est exactement le but de cette thérapie, puisque là on parle du rituel en Corée, qui est le point de départ. Donc on va en parler.
Qui est un vrai rituel,
il existe. Ah oui, alors c'est un véritable phénomène là-bas. Je pense que ça va arriver en France.
Bah, apportez-le, c'est très, très, très.
Oui, pour... non, en tout cas, le... suite au livre, peut-être que ça va être importé en France. C'est une thérapie de choc qui est très très forte. D'ailleurs, j'ai regardé, moi, avec, sur tous les forums coréens, tous les patients qui faisaient ce rituel racontent à quel point c'est bénéfique. Donc, pour raconter, c'est tout simplement vivre son enterrement d'une certaine manière. C'est-à-dire, vous êtes face à votre cercueil, il y a votre photo, les dates de votre naissance et de la mort, voilà, puisque c'est la date du jour, et vous rédigez votre épitaphe, et pendant une heure, vous êtes comme ça, allongé dans l'obscurité et le silence dans votre cercueil.
Vous savez, vous marrez, c'est vrai que... vous savez rigoler.
Mais c'est votre... très positif, Daniel.
Et même votre notice biographique est hyper importante. Qu'est-ce qu'on écrit de soi si on devait laisser quelque chose?
Moi,
que c'est un exercice
très juste,
fou.
Ça. Je trouve que chacun, voilà, si là maintenant on se mettait à rédiger, qu'est-ce qu'on retiendrait de nous, les quelques phrases, les quelques lignes sur notre parcours, sur ce qu'on a pu faire. En tout cas, c'est une expérience humaine très très forte. Qui fait que, voilà, c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir quand on va à un enterrement ou quand on est en lui, proximité avec des choses tragiques. On se dit, voilà, on va savourer la vie, on va avoir un autre rapport, on va relativiser les choses. Et c'est vrai que, au sortir de cette expérience, il y a quelque chose de très positif.
Et lui qui, justement, voyait de moins en moins son fils trop peu, en tout cas, y compris pour les fêtes de Noël, et se sentait...
son fils aveugle.
Distancé des rapports avec
c'est
Hugo.
C'est anatomie d'une chute.
Va se...
celle de Daniel.
Va se définir d'abord comme étant fier d'être papa. Hugo, ça va commencer avec cette première phrase.
Non, mais... vous avez raison, c'est clairement un électrochoc. Ce rituel, il va tout changer dans sa vie. Et c'est vrai qu'il avait beaucoup de choses à régler. Parce qu'on comprend au début qu'il y a quand même un malaise dans sa jeunesse. Et il y a une très forte culpabilité. Et on comprendra un peu plus tard dans le livre quelle est la raison de cette culpabilité.
Et tout, mais en tout cas, tous les rapports, à partir de cette expérience, tous les rapports humains qu'il peut avoir avec sa famille, avec sa mère, avec ses potes, avec son travail, tout va être totalement
ça
chamboulé.
Ça transfigure complètement. Et c'est vrai qu'il va être dans une seconde vie à partir de ce moment-là. D'ailleurs, c'est une des phrases que j'ai lu sur les forums coréens, il y a beaucoup de gens qui disaient, voilà, je commence une nouvelle vie à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que, voilà, c'est un sentiment qu'on peut aisément comprendre. L'idée que, en étant en proximité avec la mort, en la vivant presque physiquement, en vivant son enterrement, ça nous propulse après dans une énergie de vie.
Non, mais vous n'avez pas eu envie d'essayer?
Non, vous, ça va, je pense que vous avez...
Alors non, j'ai très peur de, si je le fais, que mon corps se dise, ah, enfin, qui ne bouge plus.
Non, tu dois avoir peur, surtout qu'on vienne clouer le couvercle pour pas que tu puisses sortir.
Mais j'en connais certains. Et je te vois déjà venir avec un marteau, toi.
Vous n'avez pas eu envie
Daniel,
d'essayer?
Daniel, on me pose des questions là.
Vous n'avez pas eu envie d'essayer vraiment, David?
Oui, alors moi, ça m'a évidemment passionné parce que j'ai vécu une expérience de mort à l'âge de 16 ans, donc je n'ai pas ressenti le besoin d'essayer. Je sais à quel point.
Qui n'était pas
mort,
volontaire cette fois,
Oui, je sais à quel point la mort peut transfigurer, changer une vie. Moi, à l'âge de 16 ans, j'étais opéré du cœur, j'ai eu une expérience de mort. J'ai passé des mois à l'hôpital, mais c'est vrai qu'après, alors que je n'étais pas issu d'un milieu culturel, je n'aimais pas spécialement lire. J'ai été propulsé vers une énergie de sensibilité, de beauté, si j'ose dire. Voilà, je me suis mis à lire, à écrire. Donc je sais à quel point la rencontre avec la mort peut être incroyablement bénéfique.
Il y a une phrase qui est citée dans le livre où la mort et la beauté se rencontrent. C'est la phrase inaugurale de La mort à Venise. Celui qui contemple la beauté est déjà prédestiné à la mort, qui donne l'idée à Eric de l'inverser comme slogan, en tout cas pour sa société. On va en parler.
Oui, juste... celui qui contemple la mort est prédestiné à la beauté. C'est la version inversée.
On en parle jusqu'à midi et demi de ce nouveau roman de David Fuenquinos. Mais d'abord, voici Lisa Del Mattia.
Oh oui, Lisa, salut.
Allez. Vous n'auriez pas écrit le roman comme ça, vous, Lisa?
Non, pas du tout. Même si je dois vous reconnaître quand même un talent, David Fuenquinos. Vous arrivez à nous embarquer dans une histoire de romance possible sur fond de groupe Facebook et d'enterrement. Romance, Facebook, cercueil. C'était quoi le concept, David? Ça vous manquait un trio chelou depuis la fin des Toubitries? C'est quoi ce truc? Elle vous aimait mixer des concepts qui n'ont rien à faire ensemble, quoi. C'est ça, je parie que vous mangez des pizzas à la nana et que vous regardez des pornos tournés au Sénat, espèce de grand fou.
Et en même temps.
Il faut le dire, hein, les deux héros de votre roman se retrouvent sur un des endroits les moins romantiques du monde, un groupe Facebook d'anciens du lycée. Hein. Vous le dites vous-même, c'est le groupe où on va tous pour voir si les autres aussi ont raté leur vie. Mais oui, voilà, l'échec, c'est comme les tapas, c'est quand même tellement mieux quand c'est partagé, c'est plus sympa. Et cette histoire d'anciens amis qui se retrouvent s'entremêle donc à une quête de bonheur pour le héros. Il s'appelle Eric, il bosse chez Decathlon. Vous voyez, hein, Decathlon, c'est le magasin où on a acheté 500 balles de matériel sportif qui prend la poussière au grenier, juste à côté de nos rêves d'avoir un cul ferme pour l'été. Mais nos stress avec ça. Les culs, c'est censé être mou, ok? Sinon, on se casse les dents quand on mord dedans.
Ah, mais... alors? Ça va, je vais en faire un t-shirt.
Ha ha ha! Donc Eric a 40 ans et Eric est lassé de vivre. Hein. Il est comme paralysé et dans ce cas-là, un bon moyen de reprendre goût à la vie, c'est de choquer le système avec une expérience hors du commun. Un saut en parachute, un trip sous psychédélique, un nouvel an en boîte de nuit dont tu sors en te disant « mais c'était une bonne idée, hein, pas trop cher, pas trop de gens ». Enfin, un truc hors du commun, quoi. Lui, sa première tentative pour secouer le cocotier, c'est d'accepter un job en politique. Le Eric, il est en quête de sens, crise classique dans nos contrées privilégiées. Je ne juge pas, j'en fais une par an, moi aussi. Et quand tu te demandes si ta vie a du sens, c'est comme quand tu te demandes si t'as bien fermé la clé de ton jet, quoi. Je comprends le stress, mais enfin, grosso modo, c'est que ça va pour toi. Ouais. Cela dit, ça marche pas. Résultat, dernière tentative, il participe en Corée, donc on le disait, à une simulation de son enterrement. En gros, tu joues aux morts pour réapprendre à apprécier la vie que tu prenais pour acquise. Un peu comme quand les riches font du camping, quoi. Ils jouent aux pauvres, ça leur rappelle qu'ils tiennent à la thunasse.
Camping. C'est trop mignon, camping.
C'est un vrai concept, vous dites comment, camping?
Camping.
Ah, oui.
On dit normalement. Comme gens
normaux, finalement.
Ouais, mais
finalement,
non, laissez-la.
C'est un vrai concept. Donc, le respect ici, non, mais la simulation d'enterrement, donc c'est un concept qui existe en Corée et qui se base sur le fait que les gens qui ont frôlé la mort apprécient souvent plus la vie. Il y a cette fameuse lumière blanche qu'ils auraient vue et qui aurait tout changé. Mmh. Du coup, moi, David, pour simuler la mort, je me lève la nuit dans le noir, puis j'ouvre la porte du frigo. Non seulement je vois une lumière blanche hyper vive, mais en plus de ça, au bout du tunnel, ben, y a les restes de tiramisu. C'est mieux que ça, la mort. C'est très intéressant, ce concept, hein, cette idée qu'on pourrait recréer une expérience de mort imminente en faisant semblant. Mais je me dis que ton cerveau, il doit savoir que c'est faux quand même. Enfin, je veux dire, quand je fais du air guitare, je sais que je suis pas Jimi Hendrix. Et quand je simule, ben, je jouis pas.
On était à jouer.
Dans les deux cas, il y a quelqu'un dans l'histoire qui n'a pas assez de dextérité dans les doigts. C'est dommage de devoir aller si loin pour se rendre compte de la valeur de la vie. Et c'est pas étonnant que ce concept soit né en Corée, pays peuplé de bourreaux de travail comme votre héros et où le taux de suicide est au max. Hein. Ouais. C'est une terre de contraste, la Corée. Pays du suicide et de la K-pop. Voilà, je crois que je préfère le suicide. Hein. Là, au moins, je choisis quand ça s'arrête. T'as des pays où il y a la guerre, la famine, et les gens aiment la vie. Mais c'est les pays où les gens ont la santé et le développement économique qui a le plus de suicides. Hein, ce qui nous déprime le plus, c'est pas la violence, c'est pas la faim, c'est le taf. Hein, est-ce qu'en 2024, on peut arrêter de faire semblant et admettre qu'on a juste tous un peu la flemme? Hein, voilà. Alors David, je sais pas exactement c'est quoi une vie heureuse. Est-ce que c'est apprécier ce qu'on a? Est-ce que c'est s'en foutre de la pression sociale? Est-ce que c'est la vertu? Est-ce que c'est le plaisir? Je sais pas. Mais en 2024, ben, je vais essayer de rien foutre au taf. J'ai l'impression que c'est un bon début.
Merci. La vie heureuse, David Fuenquinos, chez Gallimard. La définition de la vie heureuse, vous en donnez plusieurs dans le livre, notamment d'être heureux de ce que l'on a.
Oui, ça c'était le lien avec Sénèque, ouais. D'où j'emprunte le titre. Et puis, par rapport à cette chronique, c'est vrai que l'idée aussi de se libérer du jugement des autres, de se libérer finalement de cette pression permanente qu'on peut avoir au quotidien, je pense que c'est une des clés du bonheur.
Dans tous les domaines, pas uniquement le domaine du travail, il y a la famille qui est en ligne de mire, il y a également le rapport dans le couple, il y a le rapport au regard des autres aussi, à son histoire passée, à la culpabilité qui est présente en permanente aussi dans la vie d'Éric. Il se sent responsable de la mort de son père parce qu'il a eu un accident de voiture en venant le chercher après une blessure au tennis. Donc c'est sur des petits détails de la vie, sur la beauté d'un genou ou sur une cheville tordue.
Oui, le genou, c'est à la toute fin du livre.
La vie peut basculer.
Oui, complètement. Bah, c'est un livre qui travaille beaucoup sur l'idée, c'était le thème de votre blind test, sur le changement, sur l'idée que voilà, il faut à un moment donné essayer de se réinventer. C'est
il
beaucoup
faut,
aussi...
Non mais il faut, si on n'est pas heureux de la vie que
l'on a. Oui, complètement, mais c'est vrai que à un moment donné, je parle aussi de tout ce qui s'est passé à l'époque du Covid, et c'est vrai qu'on a vu aux États-Unis cette grande vague du quit my job, l'idée de, d'aller vers l'essentiel, d'aller vers ce qui est important, ne plus se laisser parasiter finalement par des vies qui ne sont pas forcément celles où on s'épanouit le plus. On voit partout autour de nous voilà, des professeurs qui quittent tout pour aller vendre du fromage en Corse ou devenir professeur de yoga. Il y a
ça existe jamais déjà dans les années 70 le côté je quitte tout pour aller élever mes chèvres dans le Larzac et faire mon fromage.
Là, je trouve qu'on est traversé en permanence par la multitude des vies et qu'il y a une tentative d'aller chercher plus que jamais l'épanouissement, peut-être.
Dans les années 70, il y avait aussi la menace de la bombe atomique, c'était à l'époque où il y avait...
C'était plus politique, peut-être, comme...
Mais je trouve que, par rapport à la chronique, qui était très drôle, il y a aussi l'idée que dans des sociétés comme ça, avec une pressurisation si forte, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de mal-être en Corée, alors que, évidemment, ce sont des pays qui sont portés par une énergie économique très importante.
Oui. Et la situation temporelle est importante aussi. On est en 2017, ouais. Au début du roman. Le Covid arrive.
Et Emmanuel Macron.
aussi, c'est vrai. Et il y a toute cette remise en question de à quoi je sers ? Est-ce que je suis heureux ? Quelle est la finalité de ma vie sur cette terre et la fragilité de la vie ?
Oui, c'est exactement ça. Les deux personnages, l'un est traversé par la culpabilité, l'autre progressivement va être c'est mère de deux enfants. Elle est vraiment plongée dans son travail au ministère, et c'est vrai qu'elle va progressivement être confrontée à la désillusion, au fait que ce qu'elle espérait n'arrive pas. Et d'une certaine manière, je crois que c'est face à l'adversité, avec les échecs, la violence. Voilà, de ce qui peut arriver, qui fait qu'à un moment donné, on va aller chercher des choses peut-être plus intimes, plus profondes.
Et c'est à la fois un roman qui peut être considéré comme un peu philosophique, donner en tout cas à nouveau le goût à la vie, mais aussi une espèce de suspense pour savoir ce qui va se passer dans la vie des uns et des autres. Est-ce qu'ils vont réussir ou rater leur but, leur quête du bonheur, même si elle n'est pas la même pour les uns et les autres, retrouver aussi ou être en paix avec eux-mêmes, ce qui est le cas, je pense, surtout à la maman d'Éric, qui est pas le personnage principal du roman, loin de là, mais qui est veuve, qui n'a plus de lien réel avec son fils, encore moins avec son petit-fils.
Au point de s'interroger, est-ce qu'on est obligé d'aimer ses parents ? C'est intéressant comme réflexion de ce personnage.
Oui, c'est une des réflexions, effectivement. À un moment donné, il va se libérer aussi de cette pression. Et je pense que la vie heureuse
du regard
aussi
moral,
vient,
vous dites.
Exactement, la vie heureuse vient aussi de cette forme de libération par rapport à ce qu'on attend de vous, par rapport au jugement permanent, par rapport à cette pression qu'on a contemporaine avec les réseaux sociaux, l'idée que tout le monde se compare,
puis la vision
sorte
du
de comparaison permanente.
Et puis la vision sur le couple aussi. Il y a plusieurs couples qui sont mis en scène, de savoir à quel moment on se lasse, si on est heureux, si on s'est trompé, pas trompé, s'il faut changer de vie.
Donc ça, oui, c'est vrai qu'il y a, épouse, y a un des couples qui va effectivement basculer. Tous les personnages dans ce livre sont traversés par cette question, par le questionnement de faire une sorte de bilan de vie et de choisir finalement une nouvelle trajectoire.
Moi, je trouve qu'il y a une dimension romantique, en fait. C'est ce que j'adore dans vos livres.
Ah, ça me fait plaisir.
Vous êtes un grand romantique.
Oui, parce qu'on parlait des cercueils, des rituels d'enterrement en Corée, mais...
C'est votre faute. On va se faire engueuler.
Pour moi, c'est pas du tout morbide. Il y a quelque chose d'assez joyeux, et c'est vrai que j'ai voulu travailler le livre comme une comédie romantique sur fond de cercueil, mais en tout cas il y a une tentative de toute façon, la recherche de l'épanouissement, du bonheur passe par des étapes complexes et difficiles.
Alors est-ce que vous allez jusque là en se disant qu'il faut peut-être tuer un couple pour mieux le faire revivre, le faire renaître ensuite?
En tout cas, quand on est face à sa
quand
vie,
quand
on
couple, voit... Quand tuer la liaison, évidemment, pas, le...
oui.
pas les deux, parce que je regardais déjà le regard de plusieurs serial killers autour de cette table.
Le romantisme, il n'est pas forcément
pas
que dans le couple. Je trouve que le romantisme, chez vous, il va plus loin. C'est dans le regard qu'on porte sur l'existence, en fait. C'est pas que amoureux, le romantisme.
C'est ça. Et puis c'est aussi s'interroger sur ce qui est important. Et c'est vrai que, par exemple, Amélie, elle va se rendre compte, ce personnage, voilà, qu'elle est quand même... elle est en phase avec beaucoup de futilité, avec des choses qui ne la remplissent pas émotionnellement ou même d'une manière esthétique. C'est vrai qu'après, elle va travailler dans des musées parisiens, elle va se retrouver face à certaines œuvres. Et elle va comprendre qu'il y a une sorte de consolation par la beauté, une sorte de d'épanouissement aussi par des choses qui peuvent être plus spirituelles.
Je reviens à ma question, faut-il avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un pour l'aimer encore plus ?
Ça, c'est une bonne question parce que on se pose forcément cette question quand on change de vie. Et c'est une vraie décision. Je crois qu'il faut avoir une sorte de lâcher prise. Il faut essayer il faut avoir confiance d'une certaine manière, j'allais dire en l'avenir. Il faut avoir confiance en notre sentiment intime. Et c'est vrai que cette thérapie de choc, qui est au centre du livre, qui est un phénomène en Corée, l'idée d'aller se confronter à la mort, l'idée d'aller se confronter à des choses forcément extrêmes, fait qu'on relativise, et donc je pense qu'on libère davantage l'angoisse de perte qu'on avait.
D'autant plus que dans le livre, ce que vous racontez, c'est, moi je trouve qu'une des plus belles phrases, c'est « Éric Kerson n'a pas oublié la joie d'être devenu père ». C'est dans sa notice biographique avant son enterrement simulé. C'est quand même la joie de se dire qu'on a traversé ce moment-là. C'est pas tant le fait d'être encore en lien avec ce fils, c'est d'avoir... vécu ce moment-là.
Ouais, complètement. En fait. En tout cas, j'aime bien l'idée qu'on doive se résumer à un moment donné, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisirait, quelle serait l'élection du premier souvenir, si je vous demandais, vous, Nagui, un souvenir, un moment de une façon de se résumer. Est-ce que ça serait une joie? Est-ce que ça serait une douleur? Oui. Est-ce que je trouve que ça dit beaucoup de nous d'aller chercher comme ça l'élection de l'important et la façon de se résumer.
Vous avez
juste
fait
avant
cet exercice pour vous, ça?
Bah, je le fais un peu quand j'écris des livres, d'une certaine manière, même si je ne parle pas forcément de moi. Je suis un écrivain de fiction. Je mets quand même, encore une fois, beaucoup de moi dans ce que je raconte, puisque
Madame Bovary. Bah oui.
Oui, mais là, oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de la, par exemple, de l'expérience de mort que j'ai connue à 16 ans, je me suis rendu compte bien plus tard que je l'avais retranscrit dans mon livre La Délicatesse, alors que j'avais le sentiment que c'était totalement un roman. Mais l'idée de la mort et du retour à la vie, puisque c'était l'histoire d'une veuve qui rencontre un Suédois dépressif, ça me paraissait pas du tout personnel avant de me rendre compte que voilà, c'était très personnel. Et là encore, si je me suis intéressé à ce rituel, c'est que c'est cette idée de renaissance, de seconde vie, et c'est mon obsession.
La vie heureuse, un livre et un roman qui fait du bien, en tout cas, et qui se lit avec un énorme plaisir, et quand même, cette espèce de suspense, de tension, je sais pas, moi je dévorais les pages en me disant mais qu'est-ce qui va arriver à tous ces personnages? En plus, c'est construit en trois parties avec différents points de vue d'une même situation, vue par chacun d'une manière forcément différente. La vie heureuse, chez Gallimard, signé David Fuenquinos. Voici Fanny Ruet.
Les amis, on part sur un procès cette semaine. C'est pas ce qui manque, hein, en ce moment. C'est devenu l'actu principal des stars. Bientôt le nouveau film d'Harry Habitant. Bon Dieu, qu'est-ce que t'as fait d'eux? Mais là, c'est pas une star dont on parle. Pas du tout. Et ça commence il y a presque 10 ans. On est à Paris, ville de ma première cystite, en 2014, année de ma première cystite. Mais ça n'a rien à voir. À l'époque, les loyers étaient déjà trop chers et la ville sentait déjà le pipi. Peut-être à cause de moi, du coup, j'en suis désolée. Mais bref, Paris 2014, un mec s'est fait virer de son entreprise parce que son patron et ses collègues ne le trouvaient pas assez fun.
C'est fou.
Première info déjà, on peut virer quelqu'un parce qu'il n'est pas assez fun. C'est là qu'il est parti, Tom Villa.
Oh non.
La petite balle perdue.
Oh non.
Allez. Donc oui, on l'adore. Il me fallait un nom et je ne peux pas dire comme Inek parce que tout le monde sait que... voilà.
Il est encore là.
Donc ils ont viré ce gars. Ils ont viré ce gars pour désalignement culturel, alors que bon, à Paris, ne pas être fun, c'est plutôt l'appropriation culturelle, mais bon, soit. Mais c'est fou en vrai de virer quelqu'un pour ça. C'est vraiment lui dire, écoute, ton travail est super, mais le problème, c'est toi, en fait. C'est toi, c'est vrai qu'on attache trop d'importance aux compétences des gens, alors que c'est bien plus pertinent de les attaquer sur leur personnalité. C'est important qu'après leur licenciement, ils puissent remettre en question toute leur existence, et pas seulement l'aspect professionnel de leur vie, sinon ils risqueraient de s'en remettre. Personne ne veut ça. Mais évidemment, il ne s'est pas laissé faire, le mec. Il a porté plainte. En même temps, c'est vraiment pas la personne à emmerder. Les gens pas fun, ah, ils ont du temps libre. Hein, ça. Jamais les plus entourés qui cassent les couilles. Par contre, le procès, il a duré 9 ans. Et il s'est terminé la semaine dernière, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui et pas du tout parce que j'ai pas de sujet quoi. Et il a gagné, ce mec il a gagné et obtenu sa réintégration dans l'entreprise. Pour moi ça c'est la vengeance ultime. C'est la vengeance ultime parce que le seul truc moins fun qu'un mec pas fun, c'est un mec pas fun qui revient après avoir été viré parce qu'il était pas fun. C'est du génie. C'est du génie. C'est quoi son futur dans l'entreprise en fait? Pour moi, happiness manager. Franchement, et il fait très mal son taf, comme ça il détruit la boîte de l'intérieur, tout simplement. Il en fait le triangle des Bermudes de la sérotonine. Vraiment, pendant les pauses, pas de baby-foot ou de table de ping-pong, des bilboquets. Voilà, ou des petits scrabbles. Donc, il a enlevé toutes les voyelles, donc des scrules. Dans le mini-bar, que des jus de tomates. Et pour les apéros, eh ben, on ne fête pas les anniversaires des employés, mais l'anniversaire de la mort de leurs parents. Et s'ils ne sont pas morts, eh bien on leur fait croire que si. Grosse ambiance assurée. Et ce qui est, d'ailleurs, mauvaise nouvelle, bref. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en plus de réintégrer l'entreprise, il a été indemnisé pour le licenciement et les 9 ans de procès. 500 000 euros.
Ah. L'arrêt de travailler.
Nagui,
ça vaut la peine
Nagui,
de faire la gueule.
Vire-moi.
Oui, c'est ça.
Vire-moi. Je t'en conjure, je veux les 500K, Nagui. En plus, je suis sûre que tu les assures toi. Je suis sûre que si je te tiens par les pieds et je te secoue, il y a 500 000 euros qui tombent en pièces de deux, là. J'ai envie de te secouer, Nagui, comme un petit shaker.
Viens.
Donc.
Non, franchement, vire-moi. Je suis pas une bonne chroniqueuse, wesh. Tout le monde le sait. Mentalis, il est en retard une semaine sur deux. J'ai fait des chaussettes avec ta tête. Et t'as rien dit. T'as trouvé ça normal, ce qui est vraiment inquiétant. Mes chroniques, une fois sur deux, elles sont claquées au sol. En plus, je préfère Leïla à toi. Et donc, je ne peux pas dire à la radio. Donc, vire-moi, Nagui. Ne m'oblige pas à faire une Pierre-Emmanuel Barré, en fait. Parce qu'après, les gens, ils vont saouler tout le monde, tous les autres chroniqueurs, en commentant sous toutes les vidéos. Rendez-nous, Fanny Ruet. Et quand je dis les gens, vraiment, c'est ma mère. Et Leïla, j'espère. Donc, je veux les 500K, Nagui, s'il te plaît. Parce que hier soir, moi, j'étais sur Airbnb, tu vois. Je voulais me faire un petit week-end du lundi au mercredi, comme tous les saltimbanques qui se respectent. Et ils me proposaient que des tiny house. J'en ai marre, Nagui. Moi, je veux du luxe. Moi, j'en ai marre d'avoir une tête à louer des tiny house, en fait. Moi, j'en ai marre d'avoir un physique de gauche, Nagui. Surtout que moi, je suis de gauche uniquement parce que j'ai pas les moyens d'être de droite. Dans deux spectacles, ciao, les nazes. Donc, merci, les amis. C'est tout pour moi. C'était ma dernière chronique. À plus, bravo. J'espère, mais plus dans le bus.
Merci. C'est la bande originale de votre matinée. On se retrouve après Pomme.
Pendant l'été où je t'ai rencontré par magie, les nuits sacrées où je t'ai raconté toute ma vie, c'est là qu'on s'est aimé pour la première fois.
C'était Pomme avec Juin Perséide, le nouveau titre de Pomme où elle interprète les quatre saisons, tout ça dans la bande originale de David Fuenkinos.
C'était un camoulox, ce truc.
Non, c'est un titre.
Nous aussi.
Ce titre est évoqué dans votre roman, David Fuenkinos. France Gall, il jouait du piano debout, mais ça n'évoque pas forcément un bon souvenir.
Oui, c'est vrai qu'il y a une scène un peu même très douloureuse à un moment dans le livre.
C'est le paradoxe
qu'il y a
entre la joie de cette chanson et la situation dans laquelle on se retrouve.
Mais très souvent, on a quand même ça, la bande-son de certaines situations. Il entend cette chanson à un moment tragique et c'est vrai que quand il l'entend à nouveau quelques années plus tard, il s'effondre parce que ça lui ramène directement vers ce souvenir.
Il y a beaucoup une sorte de mise en abîme aussi de l'auteur que vous êtes, beaucoup de vannes, d'allusions faites au... dès qu'il y a un écran, on ne lit pas un livre, c'est ce qui se passe dans un avion. Une allusion faite aussi au K, la lettre K dans votre nom de famille. Les grands auteurs ont toujours un K dans leur nom. Comment écrire un livre aussi et comment ne pas dévoiler, ne pas faire fuir les idées en racontant ce que l'on est en train d'écrire. Voilà, il y a quelques phrases comme ça que vous distillez à droite et à gauche, comme si vous faisiez des vannes personnelles.
Moi, c'est vrai que j'aime bien l'aller-retour entre la légèreté et la gravité en permanence. Mmh. C'est aussi le cas dans mes livres. Mon livre précédent, c'était sur le casting d'Harry Potter. J'ai écrit un livre sur Charlotte Salomon. Il y a des livres plus douloureux, des livres plus légers. Et c'est vrai que celui-ci fait un aller-retour entre des choses qui peuvent être difficiles vécu par mes personnages, et en même temps il y a une forme de légèreté et de désir de légèreté.
La musique dans votre vie, on va en parler évidemment, et on va recevoir tout à l'heure Fabrice Midal, qui est philosophe, pour nous parler de notre relation à la mort. Mais d'abord, voici ce que vous écoutiez en 74. Encore France Gall, décidément très présente dans votre vie. Pourquoi ce titre en particulier? C'est une vanne, c'est où le
corps? Parce que j'adore France Gall, mais c'est vrai qu'on on parle un petit peu moins de cette période-là. Moi, l'époque
Hong Kong
Star, c'est les années 80. Ça, j'adore cette chanson, effectivement. Mais j'étais archi fan de France Gall. Et d'ailleurs, j'avais écrit à 8-10 ans pour avoir une. On recevait à l'époque on recevait des photos dédicacées.
Ouais.
Et donc, j'avais une photo dédicacée.
Ça existe encore, vous savez?
Ça marche encore, ouais.
Ah oui? Maintenant, je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut trouver les gens plus facilement. On sait où ils habitent. On attend en bas chez eux.
On sait où ils se cachent. Ça s'appelle un cambriolage.
Ou du harcèlement.
Oui, c'est la tendance.
C'est du harcèlement. mais c'est tout. Mais c'est pas plus mal.
On est en 74, David. Quand on évoque votre enfance.
Oui. Je venais de naître en 74.
Ouais,
j'écoutais pas encore France
Gall. Pas encore. Dans les années qui ont suivi votre naissance, bien entendu, vous avez pas mal voyagé. Vous parliez d'une enfance un peu étrange, un peu schizophrénique de ce point de vue-là.
Ah, totalement schizophrénique, parce que j'étais à la fois issu d'un milieu très modeste, on vivait en banlieue parisienne dans un HLM, mais en même temps, comme ma mère travaillait Air France, on voyageait, on allait en Californie l'été, donc je passais le mois de juillet à Meaux, Beauval, dans une tour de Seine-et-Marne, et puis j'étais à Santa Monica au mois d'août. Totalement schizophrénique pour moi. On avait des vacances de riches dans un milieu modeste.
Ouais. Et avec un personnage important dans votre enfance, c'est votre grand-mère paternelle.
Oui, mes grands-parents ont beaucoup compté. C'est vrai que je suis très très lié à ça. J'avais écrit un roman, Les Souvenirs, qui parle aussi beaucoup du lien aux grands-parents, à la transmission. Et c'est vrai que ce qui est drôle, vous évoquez ma grand-mère qui était cuisinière, et elle avait tout un été travaillé au service de France Gall et Michel Berger. Je crois que c'était l'été 82 dans leur maison de Ramatuelle. Voilà, elle avait été leur cuisinière. Donc ça, elle en parlait toujours avec beaucoup d'émotion. J'étais un peu dans le showbiz, en fait.
Carrément.
Je crois que c'est malheureusement la maison où Michel Berger a eu son accident. Ouais.
Elle a raté un plat.
C'est
une indigestion.
Arrête, t'as pas le droit.
C'est quoi, on se renseigne?
1991, Les Cure. Donc là, vous êtes déjà un peu plus libre des musiques que vous choisissez d'écouter. À quoi correspondent les Cure dans votre vie?
Je comprends pourquoi j'ai écrit un roman sur les cercueils. J'étais hyper gothique, finalement tout est lié. À l'âge de 16 ans, moi je fuyais le soleil, je m'habillais en noir, je tentais d'avoir la même coupe.
Dans ce clip, il est enfermé dans une armoire,
oui,
pas dans un cercueil.
Voilà, c'est ça, c'est Close to Me, ça aurait pu être le titre, effectivement, c'est pareil. Sauf que je pense que c'est beaucoup plus angoissant, parce qu'elle tombait après de la falaise.
Dans l'eau.
Mais j'étais hyper curiste à l'âge de 16 ans, j'essayais de me faire la même coupe que Robert Smith, malheureusement, avec les cheveux bouclés, ça marchait pas, quoi. Mais
vous avez évoqué votre opération du cœur, David. Vous découvrez à ce moment-là la littérature, vous devenez quasiment boulimique de littérature. Votre premier souvenir de livre, justement, c'est votre renaissance, donc c'est votre début dans la lecture, c'était quoi?
Alors, il y en a eu beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai à un moment donné vraiment plongé. La littérature russe a été très importante pour moi. J'ai lu vraiment beaucoup Dostoïevski. À l'âge de 18 ans, je suis parti à Saint-Pétersbourg pour voir sa maison. Je suis passé de Cure à Dostoïevski, en fait.
Et vous dites que vous êtes devenu un adolescent hyper romantique, mais genre un peu flippant dans le romantisme. C'est quoi ?
Oui, alors je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, mais disons qu'à l'époque, voilà, je me suis mis à écrire. J'étais pendant des mois à l'hôpital. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc j'écrivais des lettres. Donc je pense que j'écrivais des lettres enflammées et pathétiques. Je prenais des râteaux à distance. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à devenir écrivain. Ouais, ouais. Peut-être que si j'avais eu du succès. Je ne serais pas devenu écrivain, voilà. Je ne sais pas.
En 2009, vous écoutiez évidemment Émilie Simon. Ah oui. Bande originale de votre vie, mais aussi de la délicatesse.
Votre roman qui s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires, c'était Gallimard déjà, votre première maison ?
Oui, mon premier roman, en 2002, j'avais envoyé par la poste, oui, c'était Gallimard. Refusé partout et j'avais eu un coup de fil des éditions Gallimard, j'avais cru à une blague. Mais c'est vrai que pendant 10 ans, ça a été assez confidentiel et le vrai moment de bascule, c'est la publication de La Délicatesse.
Qu'est-ce que vous viviez à ce moment-là dans votre vie ? Elle ressemblait à quoi, votre vie, votre quotidien, au moment de la sortie de La Délicatesse ?
Je vivais avec mon fils à l'époque, qui avait 8-10 ans, voilà, dans un tout petit appartement. Et c'est vrai que c'était totalement inattendu pour moi, le succès de La Délicatesse. Et puis après, on a eu la chance de faire le film avec Audrey Tautou et François Damiens. Audrey Tautou que je retrouve en ce moment, puisqu'on a plein de répétitions du spectacle Charlotte. Mais c'est vrai qu'Émilie Simon, c'était assez fou. Parce que j'étais persuadé, avant même d'avoir les acteurs, qu'elle serait la bonne personne pour faire la musique du film, et assez investie vraiment, pour des raisons aussi très personnelles, incroyablement dans le film, et elle a fait une musique sublime. Voilà. À chaque fois que j'écoute cette musique, j'ai la chair de poule.
Fabrice Midal nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Philosophe, auteur, enseignant, créateur du podcast Dialogue. Vous avez publié un livre dont le titre est Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. La quête du bonheur. Et permanent, tout à l'heure, on se posait la question, enfin, on disait, est-ce que on cherche à avoir une vie heureuse quand on n'est pas heureux de sa vie? Ou c'est un moteur que l'on peut avoir dès le début, quelle que soit la vie que l'on ait?
Le problème du bonheur, c'est l'idée habituelle qu'on a. On rentrerait chez soi, nos enfants courraient en ayant fait leurs devoirs, il ferait toujours beau, tout irait toujours bien. Tant qu'on a cette idée du bonheur un peu niaise, c'est ça qui empêche le bonheur. Au fond, il y a un piège du bonheur qui est cette idée naïve et un peu abstraite. Et au fond, le bonheur, c'est affronter les défis, c'est que parfois il pleut, des fois il neige, des fois il fait froid. C'est rentrer en rapport à la vie, c'est d'ouvrir un rapport à sa propre vie. C'est d'être un peu moins étranger à ce qui nous arrive, peut-être, le bonheur.
Mais ça veut dire aussi faire 2 pas de côté, l'observer, la regarder, faire des bilans de temps en temps ?
Oui, faire des bilans, bien sûr, je vois où vous voulez venir. Faire des bilans, la regarder, l'écouter, retrousser ses manches, vivre un peu l'aventure. La vie est plus une aventure qu'un état immobile dans lequel tout irait bien. Mmh. Et au fond, ce qui nous rend heureux... Quand on regarde rétrospectivement sa vie, c'est pas toujours ce qu'on pensait. C'est des moments surprenants, des surprises. On pensait qu'on avait échoué, ça va nous permettre de rebondir, ce que disait David il y a quelques minutes. Et je crois que c'est important de changer complètement notre regard sur le bonheur. Parce qu'il y a une sorte d'injonction au bonheur qui nous terrorise. Il faudrait aller bien, il faudrait être calme, il faudrait pas avoir trop d'émotions. Tout ça, c'est absurde.
On a l'impression que ça vous énerve, le bonheur.
La fausse idée du bonheur m'énerve, oui. Au sens que je crois que c'est ça qui nous rend malheureux, alors que qu'être heureux, c'est peut-être sentir qu'on a plus de ressources qu'on croit, c'est peut-être se plaindre un peu moins, être un peu moins dans une position de victime et voir comment on peut affronter les choses.
Donc vous rejoignez la citation de Sénèque, c'est-à-dire être content de ce que l'on a. C'est votre définition de bonheur ?
Je dirais pas être content de ce qu'on a, parce que moi je trouve que c'est bien de pas du tout être content de ce qu'on a pour, au contraire, pour...
qu'il y ait une quête ?
Aller de l'avant, être un être humain, c'est d'être toujours en quête. On écrit un livre, et puis il faut en écrire un autre, et puis vous faites une émission, et puis il faut en faire une autre, et donc...
Donc le bonheur, c'est le chemin, mais c'est pas le but.
C'est l'aventure. Donc je pense, mais c'est un autre sujet... que le stoïcisme est une imposture, mais c'est un autre sujet.
Je pense que c'est une imposture.
Parce que l'idée que le bonheur serait d'être détaché, d'être calme, c'est pas humain. Être humain, c'est être bouleversé, on écoute les informations, on est bouleversé, quand on voit la situation du monde, on est angoissé, on a envie de pleurer, et je crois qu'on peut être heureux en étant parfois angoissé et en pleurant, parce qu'on est vivant. Je crois qu'être heureux, c'est être vivant, c'est pas être à l'abri hors du monde. Et c'est ça que je voudrais essayer de défendre. Nous délivrer de cette idée un peu niaise de, du bonheur comme une sorte de sérénité complètement désincarnée et déshumaine.
D'accord, monsieur.
C'est une idée quoi ? C'est une idée marketing, ça, vous pensez ? C'est commercial, c'est commerçant de dire, de définir le bonheur ?
D'abord, c'est quand même le stoïcisme qui est une longue histoire, qui, je pense, nous trompe beaucoup. Et évidemment, aujourd'hui, il y a tout un côté marketing. Et puis, plus profondément, c'est une forme d'idéologie et de violence de notre temps. Il faut être performant, il ne faut pas avoir d'état d'âme, il faut être toujours plus efficace. On a l'impression qu'aujourd'hui, le modèle de l'homme qui réussit, c'est un peu le psychopathe, qui n'a pas d'état d'âme, qui avance, qui est toujours performant. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'idée du bonheur, c'est l'idée du psychopathe qui réussit. Et c'est ça que je voudrais un peu dénoncer.
C'est pas nouveau, l'idée de l'imbécile heureux, entre guillemets, le niais du village, celui qui était heureux sans forcément...
Oui. Heureux les pauvres d'esprit, quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, ce qui est nouveau, c'est qu'il faudrait être performant, efficace, sans état d'âme. Ça, c'est vraiment nouveau. C'est ça, c'est cette image-là que je crois
erronée. Une machine,
erronée.
Quoi.
Mmh. Voilà, au fond, on a l'impression, c'est très bien dit, on a l'impression qu'aujourd'hui, pour être heureux, il faudrait être une machine. Mmh. Que avoir des angoisses, c'est quand même un problème. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes stressé, vous faites un burn-out, on va vous dire, oh là là... il faudrait que vous vous détendiez. Mais non, vous pouvez faire un burn-out parce qu'on a abusé de vous, parce que vous voulez trop bien faire, parce que vous avez à cœur les gens autour de vous. On ne fait pas un burn-out parce qu'on n'en a rien à foutre, on fait un burn-out parce qu'on veut trop bien faire. Ouais. Donc je pense que beaucoup de gens souffrent parce qu'ils veulent trop bien faire. Et que peut-être, c'est bien... Ça, c'est un autre livre que j'avais écrit, que c'est peut-être important de se foutre la paix.
Alexis Rossignol.
Non, à l'inverse, moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des injonctions à la zénitude.
Voilà, c'est pareil, c'est ça. Être zen, c'est... être calme, être efficace. Bon, faut être zen pour être efficace, vous voyez. On vous dit, si vous êtes zen...
Pardon, moi, zen est... Ah bon ?
Ah oui, soyez zen, vous n'aurez pas d'état d'âme. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de programmes pour... calmez-vous, soyez efficace, et comme ça, vous allez être plus performant, vous allez devenir une meilleure version.
Le rapprochement entre l'efficacité et la zénitude, je ne vois pas
très... Pour être efficace, il faut que vous n'ayez pas d'état d'âme, il faut que vous n'ayez pas trop d'émotions, il faut que vous soyez juste performant.
Ouais, on peut s'enlever une pression. On peut s'enlever une pression, voilà, c'est ça.
Oui, mais être zen aujourd'hui, c'est... voilà, on voit plein de programmes dans plein d'entreprises aujourd'hui, tout un discours du management qu'il faut être bienveillant.
C'est autre chose, mais zen. Alors, la zénitude pour la zénitude.
Voilà, c'est ça, pour le plaisir d'être détendu.
Ralentir.
Du détachement, de
souvent, c'est être zen aussi pour être meilleur mère, pour être meilleur parent. Voilà. C'est toujours.
Pas toujours, je trouve.
Il y a quand même une petite finalité, non ? Tu vois pas ?
Mais il y a une différence.
Moi, je trouve quand on regarde que c'est ça qu'on promeut, parce que être zen pour être zen.
C'est nul.
Exactement.
S'il n'y a pas de rentabilité derrière, franchement. Ah,
non, mais ça, c'est le point de vue.
Ce qui est rigolo,
si vous dites à quelqu'un détendez-vous, soyez tranquille.
C'est crispant, non ?
Pourquoi ? Ah, ben c'est pour vous.
Moi qui suis engagé dans la méditation, c'est l'engagement. Moi, je ne médite pas pour être zen, je médite pour être plus vivant, pour être engagé dans la vie.
Moi, je vous trouve très tendu, Fabrice, personnellement.
Être plus vivant, ça peut simplement... c'est la fameuse image de ceux qui ont encore une fois frôlé la mort et de s'émerveiller du moindre brin d'herbe qui subit le vent, de s'émerveiller d'un rayon de soleil, d'un paysage, et d'être détendu, sans chercher pour autant une espèce d'efficacité, de rentabilité dans la société ou dans la boîte dans laquelle vous bossez.
Si vous voulez être apaisé et pouvoir mieux apprécier la vie et être plus heureux, la chose importante, c'est de ne pas vous en vouloir d'être touché, ému, blessé. Si on vous dit « détendez-vous »,
ça dépend qui vous le dit aussi.
C'est comme on le dit.
Mais moi, quand je suis en colère, quelqu'un me dit « ah, détends-toi », je ne sais pas comment ça marche, mais moi, je suis encore plus en colère.
C'est ça.
Mais si quelqu'un dit « ah bon, d'accord, t'es en colère, reconnais ce que je vis », là, je peux me détendre. Vous voyez, je peux me détendre parce qu'on reconnaît ce que je vis.
On a beaucoup parlé du bonheur, mais le point de départ, c'était de parler de la mort aussi, qui était le sujet central aussi, qui est toujours le sujet central du roman de David Fuenkinos. Notre rapport à la mort, en tout cas dans nos sociétés occidentales, est plutôt dans la crainte que dans que dans la fête ou dans la musique.
Plutôt le déni. Je dirais que c'est une peur au carré. On a peur de la mort et on n'en parle pas. C'est un peu tabou, c'est quelque chose qui est un peu honteux. C'est ça qui est le plus frappant pour un philosophe. Les Grecs appelaient l'être humain le mortel. Dans tous les textes, être humain, ça veut dire être mortel. Donc c'était vraiment assumé. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une catastrophe, que c'est un problème. Au fond, c'est... il faudrait l'effacer. Et au fond,
être mortel, c'est se reconnecter justement à la vie, c'est d'avoir une espèce de carpe diem avec profitons de tout avant que ça soit plus grave.
Et c'est ça le livre de David est dans la grande tradition occidentale que penser à sa mort, c'est penser à sa vie. C'est-à-dire la grande idée de toute la philosophie, c'est plus on contemple la mort, plus on se dit mais qu'est-ce qui me rend vivant? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et quand on demande par exemple aux gens en fin de vie quels sont leurs principaux regrets, qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire, ben, ils disent des choses essentielles. J'aurais peut-être aimé travailler un peu moins, passer plus de temps avec mes amis, être plus en rapport avec moi-même, être plus authentique, accorder plus de droits à des choses
donc,
essentielles.
Comme David, vous pensez qu'il faudrait avoir une deuxième chance, une deuxième vie?
Oui, donc c'est pas la peine d'attendre qu'on est en fin de vie pour voir qu'est-ce qui est le plus important pour nous. On peut peut-être prendre un moment et essayer de le faire aujourd'hui, de dire mais qu'est-ce qui est important pour moi? Penser à sa mort, c'est ça. C'est-à-dire, penser à sa mort, c'est se dire, mais au fond, qu'est-ce qui fait que je suis vivant? Qu'est-ce qui est important pour moi? À quoi je veux consacrer ma vie? Et la grande idée, voilà, de la philosophie, c'est ne pas penser à sa mort, c'est être un peu inauthentique. Et penser à sa mort, c'est apprendre à être un peu plus authentique, un peu plus vrai avec soi-même.
Le rapport à la mort n'est pas le même si on est croyant ou pas?
Ben, je crois que ça change pas grand-chose parce que, alors si vous êtes croyant et que vous pensez que à la fin il y a le jugement dernier, donc ça peut être hyper angoissant quand même.
Et ça peut être un moteur pour bien se comporter aussi.
Oui, donc ça vous engage quand même à vous poser des questions. Comment être un vrai être humain? Mm-hmm. Donc je dirais que la question elle est pas forcément est-ce que je suis croyant ou pas. La question c'est est-ce que je prends au sérieux le fait que j'aurai qu'une vie, parce que même si plus tard, je vais au paradis ou en enfer, ou que je crois à la réincarnation, peut-être je vais renaître, cette vie que j'ai, je ne l'aurai plus. De toute manière, cette vie que j'ai, je ne l'aurai plus. Donc, il faut que j'en fasse un bon usage. Donc, ça vaut la peine de prendre un moment pour se dire, mais au fond, qu'est-ce qui est important? Et peut-être de relativiser certains problèmes qui sont en train de me bouffer la vie, mais qui sont pas si importants, et peut-être de revenir à ce qui est le plus important, à revenir à l'amour, au lien, à ce qui rend vraiment vivant.
Le prochain livre de Fabrice Midal s'appelle « La théorie du bourgeon, une philosophie anti-découragement pour l'efficacité ».
Vous êtes au courant de tout.
Merci beaucoup en tout cas pour cette visite et encore tous nos voeux. Voici Alexandre Kominek. Ah bah non, Alexandre Kominek qui devait être avec nous, même là en début d'émission avec nous, n'est pas là pour répondre au plan de réarmement de natalité demandé par le président Macron. Nous avons donc choisi d'inviter Carlos. Ah.
C'est ça, hola.
Bonjour Carlos.
Comment ça va?
Très bien, Carlos.
Tout bien?
Oui, super.
Écoute, Anaïs, j'étais tranquille en vacances quand j'ai entendu que Macron voulait relancer la natalité, tu vois. Oui. Ouh, quand j'ai entendu ça, je savais déjà que mon téléphone allait sonner, tu vois, qu'il allait vibrer. Hein, comme moi, je vibre quand le Real Madrid marque un golazo, tu vois, ou comme quand les femmes vibrent quand Carlos rentre dans une pièce, tu vois. Bah, t'as pas vu Leïla depuis tout à l'heure? Brrr, brrr. Hein, personne l'appelle, hein, c'est Sachnek qui a reçu la notice.
Non, ça va pas.
Elle a reçu un WhatsApp. Voilà. Bref, je savais que mon téléphone allait sonner. Pourquoi, s'il faut relancer la natalité, Carlos est le mieux disposé, tu vois. Avec ce que j'ai, mes pantalons, je mets pas les femmes enceintes, Nagui. Je fais des portées. Des bulldogs espagnols. Je te dis, tu crois qu'il y en aura un? Il y en a six. Avec moi, les femmes font pas l'amour, mais la remontada. Tu vois. Donc, j'ai eu Macron au téléphone. Et il m'a dit, Carlos, la situation est très grave, tu vois. Il faut refaire des enfants. J'ai dit, écoute, Manolo. J'ai dit, voilà. Compte sur moi, parce que si je peux donner mon corps pour sauver la France, prépare deux légions d'honneur, tu vois. Une pour moi, l'autre pour Maïd. Ah ben d'ailleurs, ma verge, elle est tellement longue que tu peux la décorer comme la veste d'un dictateur africain. Je t'ai dit, hein. Soldat, officier, lieutenant, colonel, général, parachutiste. Parachutiste, pourquoi? Si tu voyais comment je fais planer les gonzesses, tu vois, elles se tiennent à micro-roles comme ça. C'est incroyable. Ah non, les femmes décrivent mon pénis comme un porte-avions, tu vois. C'est pourquoi j'arrive à décoller et à atterrir dessus, tu vois. Et autour, il y a de la flotte. La dernière fois, il y en avait tellement qu'il y avait carrément des migrantes qui arrivaient sur des embarcations de fortune. Et Bardella qui était là, rentrez chez vous. Et les autres qui s'agrippaient à mon cocotier, tu vois. C'est pas des parties génitales que j'ai, mais la isla bonita, tu vois. Mais bref, j'ai dit à Manolo, c'est bizarre. Tu vas demander aux gens de faire des enfants. Tu vois, un enfant, ça se fait quand on veut, ou ça vient quand on s'y attend pas. Et puis, il faut trouver la personne avec qui le faire, la personne avec qui tu as envie de le faire. Bon, après, avec moi, c'est vrai qu'elles font pas des sissis quand elles voient mon sissi. Tu vois. Mais Manolo, je lui ai dit, Manolo, pero, écoute, réarmement démographique, c'est quoi ça, hombre? C'est pas du marketing, tu vois. Je parlais de remontada, mais en vrai, avec moi, ça sera plus dans la démontada. Démontada, voilà. Démontada, ça, c'est Carlos, tu vois. Parce que faire l'amour avec moi, c'est comme accoucher pero à l'envers, tu vois. C'est douloureux, mais qu'est-ce que c'est beau. Joder, la démontada, on me surnomme le bulldozer ibérique, tu vois. Les femmes avec moi, elles sont enchantées et après, elles sont en chantier. Je t'ai dit, pero je sauve des vies. Je sauve, Leïla, de verdad. La dernière fois, j'ai couché avec une copine, j'ai dit, Chantal, fais un scanner, pourquoi j'ai senti une tumeur au niveau du diaphragme. Voilà. Amigos, tout ça pour dire que si tu n'as pas envie de baisser, tu ne baisses pas, mais par contre, si tu en as envie, Carlos, il sera toujours là pour toi.
Yeah, merci. Dominique Passereau, tu seras là dans la dernière demi-heure avec un sujet aujourd'hui sur...
Je vais vous parler d'une tendance TikTok totalement conne. Une tendance TikTok, quoi. Ça consiste à se tirer sur le pénis, voilà, pour essayer de le faire grandir.
Le meilleur de la bande originale, c'est reparti pour la dernière demi-heure. Leïla Kadouboudadi est avec nous, Daniel Morin également, et toute la bande, et notre invité aujourd'hui.
Un fidèle de l'émission, c'est David Funkinos.
Nagui, oui. Il donne du fric pour venir aussi souvent,
Funkinos.
Mais
non, c'est tout. Avec cette vie heureuse, la vie heureuse, tout un programme, le point de départ d'un roman, c'est une anecdote, c'est un moment vécu, c'est un article que l'on lit. Comment est née la vie heureuse?
Le point de départ, c'est vraiment le rituel. J'étais à Séoul et j'ai entendu parler de ce rituel. C'est vrai que ça m'a forcément parlé.
J'ai commencé à me renseigner face à sa mort. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi au début.
Ouais, tout à fait.
Donc, être face à sa mort, face à son propre cercueil, voir son épitaphe, ça. Date de naissance et la date du jour auquel la cérémonie a lieu, et de se résumer en quelques phrases.
Mais je conseille vraiment tout le monde d'aller voir sur Internet, il y a plein de reportages, ça a été filmé, c'est vraiment un phénomène en Corée, c'est très très fort de voir toutes ces personnes. Alors ce sont des cérémonies collectives, elles sont habillées en blouse blanche, il y a des bougies, et puis effectivement elles rédigent leur épitaphe, et puis elles rentrent dans leur cercueil avec leurs photos dessus, et pendant une heure elles sont plongées dans l'obscurité, le silence, l'occasion de réfléchir à sa vie.
C'est la réinvention de soi.
Ouais, totalement. Quand on lit les commentaires sur les forums, il y a ça revient beaucoup, l'idée de dire voilà, je vais commencer une deuxième vie, je vais relativiser. Alors souvent ce sont des personnes quand même en mal-être, en dépression. Voilà, c'est une société extrêmement violente et difficile, et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien.
Est-ce que c'est vérifié sur le long terme? Parce qu'après le confinement, on s'est tous dit pendant le confinement qu'on allait arrêter de consommer, qu'on serait beaucoup plus dans le lien, etc. Est-ce que cette thérapie-là, sur le long terme, elle porte vraiment ses fruits?
Cette thérapie apparemment dure, et voilà, c'est quelque chose d'assez fort, parce que c'est une expérience assez extrême. Mais là où vous avez raison, c'est que très souvent, quand on va en enterrement, voilà, on se dit, voilà, on va changer de façon de voir les choses, on va savourer, on va être un peu différent, puis
on se réconcilie aussi.
Oui, voilà,
des fois.
On se laisse très vite encombrer par des broutilles à nouveau. Le Covid, ça a été pareil. On s'est dit, voilà, on va totalement avoir un rapport différent aux choses, et puis ça dure deux semaines.
Daniel Lisa, elle le disait tout à l'heure, on le sait quand même que c'est bidon, qu'on n'est pas mort, donc il y a un petit souci par rapport à ça. S'auto-convaincre.
Je suis pas, oui, c'est par rapport à l'air guitare. On sait qu'on n'est pas Jimi Hendrix.
Ouais.
Mais non, là, je pense que c'est quand même quelque chose de très physique. Ouais. Moi, pour un magazine, je viens de faire des photos dans un cercueil.
Wow.
Et ben même quelques minutes. Alors ils m'ont pas enfermé, j'ai pas vécu le rituel, mais c'est une sensation je sais que je suis pas mort, mais c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc imaginez dans l'obscurité, le silence pendant une heure dans un cercueil.
La vie heureuse, le nouveau roman de David Fuenquinos, ce nouveau très bon roman de David Fuenquinos aux éditions Gallimard. Voici Monsieur Tanguy.
L'avantage des gens de ma génération, c'est qu'on n'a pas grandi avec le porno, donc on n'avait pas de point de comparaison. Ok, dans les vestiaires après le sport, on se regardait un peu, mais c'était avant le réchauffement climatique et on était sous la douche. Hein, donc ça revenait à faire un concours de lancer de boomerang entre manchots. La seule image de pénis qu'on avait, en tout cas pour ceux qui faisaient pas le catéchisme, c'était dans le manuel d'histoire, les photos de statues d'athlètes grecs nus. Vous savez, les Thibaut in shape de l'Antiquité. Hein, pour lancer un pauvre disque, ces tarés contractaient chaque muscle. Le problème des Grecs, c'est que de tout temps, ils en ont fait trop. Aujourd'hui encore, Nikos sur The Voice annonce face cam un combat de titans. Résultat, il y a deux chanteuses de R&B qui se postillonnent à la gueule l'une de l'autre en essayant de glapir du Beyoncé. Enfin, à côté, même Camille Lelouch, qui fait partie du jeu, paraît d'une simplicité désarmante. Mais l'avantage des statues grecques, c'est que tout avait un pénis minuscule, donc on pouvait se projeter. Une des épreuves olympiques à l'époque, c'était d'ailleurs d'arriver à retrouver son pénis. Les mecs cherchaient dans tout Athènes en courant, puis d'un coup arrêtaient de courir en disant « mais que je suis con, je l'ai sur moi, comme nous avec les clés de bagnole aujourd'hui ». Et hier, j'étais sur Internet, sur le blog de Nagui, je lisais son post intitulé « Je suis en congé et je vous pisse à l'arrêt », quand j'ai reçu une alerte info de Doctissimo. Vous savez, c'est un site qui traite des maladies. Et que j'adore, parce que j'aime m'informer sur les trucs que j'ai pas. Hein, c'est pour ça que je consulte le classement Forbes des plus grandes fortunes. Donc j'arrive sur l'article intitulé « Une nouvelle tendance TikTok consiste à étirer son pénis ». Accablé, je me dis, les Chinois ont réussi leur coup. Ils sont en train de rendre les Occidentaux totalement cons avec leur réseau social de cassos. Le jour où ils vont nous envahir, on sera tous devant l'écran en train de s'étirer le pénis. Ils vont prendre Paris en 4 minutes. À résister, il restera 12 rats et Anne Hidalgo, qui n'a pas de pénis. Ou alors elle en a un, et le grand happening surprise pour la cérémonie d'ouverture des Jeux 2024, ce sera en fait elle. Alors attention, attention, qui dit tendance TikTok dit quand même réservé aux jeunes. Hein, Daniel Morin, par exemple, n'a même pas d'Instagram. Il échange avec la direction par pigeon voyageur. Donc, il est peu probable qu'il s'étire le pénis. Hein, avec son allure inquiétante d'Ardennes ou prise forcée de Bromure, bon, il vaut mieux qu'il reste aussi loin de TikTok que les Martine Aubry de la joie de vivre. Bref, là, vous vous dites, à quoi sert de se tirer sur le pénis? Parce que ça fait mal. Jamais la phrase, hier soir, petit moment pour moi tout seul, je me suis tiré sur le pénis, n'a été prononcée. Hein, si au Moyen-Âge, un des moyens de torture les plus courants était de tirer sur tous vos membres, c'était pour faire mal. Les mecs ne se sont pas dit, c'est cool, après ça, ils vont tous ressembler à Jean Lassalle. Eh ben les gosses, les jeunes, se tirent dessus parce qu'on leur a dit que ça le faisait grossir. Eux n'ont pas la statue du discobol nu en référentiel, mais des milliers de vidéos X dans lesquelles des types arborent au niveau du bassin un engin qui pourrait faire partie de la gamme jardinage de Bosch. Mais j'ai toujours plein, moi, les actrices qui se retrouvent face à ces atrocités. J'ai vu un de ces films une fois, j'ai cru qu'ils avaient relancé la franchise Predator. Je me disais, je comprends pas le scénar, pourquoi cette piscine? Et le fait de laper sa caipirinha d'un air salace apporte quoi à l'histoire? Mais je mettais ça sur le compte d'un manque d'auteurs de talent à Hollywood. Hein, on peut pas être partout. Je suis à la radio 5 jours sur 7. Un Paris-LS et 12 heures d'avion. Je suis coincé. Hein, donc, il a suffi qu'un jour, un crétin dise sur TikTok que se tirer sur le pénis le faisait s'allonger pour que des milliers de garçons le fassent. Et ils ont l'impression que ça marche. Parce que, explique Doctissimo, le tissu pénien se déchire. Alors, là-dedans vient se mettre du tissu cicatriciel pour remplir les déchirures. Hein, c'est très complexe, le pénis. Hein. Moi, je touche plus au mien avant d'avoir repris des hautes études. Hein. Bref, ce deuxième tissu qui s'ajoute au premier fait paraître l'organe plus grand. Et le jeune se dit, je suis un mammouth. Le problème, parce qu'on se doute que si ça marchait, tout le monde le ferait. Hein, au Sénat, où maintenant ils tournent des sextapes, bon, ils en auraient tous d'énormes. Le problème, c'est que tirer sur son pénis peut engendrer la maladie de la péronie. Cette maladie, c'est un épaississement fibreux donc qui déforme le pénis et alors, je cite Doctissimo, altère sa forme lors de l'érection. Alors, comment expliquer? Vous voyez quand le sculpteur de ballon offre à votre gosse un petit chien. Bon, bah, 2 heures plus tard, ça ressemble plus à un petit chien. Bon, bah, là, c'est pareil. À la fin d'un date, vous vous dézappez, ça ressemble tellement plus à rien que la personne en face se dit, tiens, je pensais qu'on partait sur un plan sexe. Pourquoi sort-il un bouquet de fleurs de son jean? Ah, mon Dieu, j'ai compris, c'est un magicien. Bon, avantage, plus besoin de payer l'entrée à des expos sur le cubisme ou l'abstrait. Il suffit de retirer son slip et on a la rétrospective Georges Braque. Mais encore pire, les urologues expliquent qu'une fois la cicatrisation terminée, le pénis, qui devait grandir, je vous rappelle, en fait, raccourci. Oh. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de projet collectif plus raté que ça depuis le communisme. Hein. D'où ma conclusion qui est, laissez vos pénis tranquilles. Les modèles qu'on vous présente à longueur de vidéos problématiques avec des sexes surdimensionnés, ça représente 1 homme sur 1000 personnes. Mmh. En réalité, naît comme ça, allez dans les Landes cet été. Regardez les gens, vous voyez rien, c'est normal. Hein, la vérité était à trouver chez les Grecs anciens. Toujours plus lire les manuels d'histoire que traîner sur TikTok. Je sais, ça fait réac, mais au moins, on n'est pas déçus. C'est comme l'intellect. Moi, je suis moyennement intelligent. Est-ce que je traîne à la grande librairie? Bah non, je suis à la bande originale. C'est QFD.
Bravo, Tanguy.
Tout de suite, voici Julien Doré et Paris Seychelles dans la bande originale sur Inter.
Dehors, à Angoulême, un chasse Blin Melchior. Paris s'échelle, découvrir ton corps. Depuis la scène du sombre décor, Lucre sereine, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas, le soleil s'endort sur ses chelles, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage et de l'or pour se perdre. I need you so, I won't let you go. I need you so, I won't let you go. Souffrir la mort pour te plaire, défendre nos torts, et puis se taire, le désir encore pour l'hiver, un chaos d'efforts. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas. On s'était dit des choses. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas.
C'était Paris Seychelles dans la bande originale de votre matinée, la matinée de David Quinquino sur Inter. David Quinquino, l'incipit de votre livre, citation de Charlotte Salomon.
Non, c'est pas l'incipit, c'est l'exergue.
C'est l'exergue, ouais. Ouais, la phrase en exergue.
C'est
les premiers mots
de l'œuvre.
Et là, messieurs, dames, on est sur France Inter.
Ah ouais,
c'est une France culture.
Elle a raison. En exergue, donc.
Ah, t'es pas sur RTL, mon petit gars.
On devait même, pour aimer plus encore la vie, être mort une fois. Ouais. Phrase qu'elle a dite, et si je parle de Charlotte, c'est parce que vous adaptez votre roman, un demi-million d'exemplaires vendus. Déjà, bravo pour ça, mais vous l'adaptez en spectacle musical. Avec Audrey Tautou et Guylaine Dorcé.
Ouais, exactement. C'est un peu mon spectacle de rêve. En plus, à la scène musicale, à l'auditorium, voilà, c'est sublime. Et c'est un spectacle musical. Voilà, on va raconter la vie de Charlotte Salomon. On va projeter ses toiles qui sont, voilà, c'est comme un roman graphique. C'est sublime de se plonger dans son œuvre. Musical, parce que effectivement, c'est Guylaine Dorcé, la bassiste de Bowie, qui a fait toute la tournée de M, qui est absolument géniale, qui a composé, voilà, et qui va jouer en live. C'est mis en scène par Jerry Lipman. Et puis, pour incarner Charlotte, en tout cas, pour raconter sa vie, j'ai tenté de convaincre Audrey Tautou de revenir.
Ouais, parce qu'elle est en retrait de tout, oui. Là. Ouais. En retrait de.
Ouais, elle avait
beaucoup de recul.
Ans, oui, elle a arrêté depuis 5 ans. Ouais. Et effectivement, là, elle revient parce que c'est quelques dates. C'est un projet qui est particulier, qui est inédit pour elle. Et puis surtout, voilà, elle a été bouleversée par la vie de Charlotte Salomon et elle avait envie, voilà, de la porter.
On rappelle, une jeune femme allemande qui a fui l'Allemagne nazie pour se réfugier en France, qui a été déportée dans les camps d'Auschwitz à une vingtaine d'années alors qu'elle était enceinte.
Et qui a fait l'objet d'un film d'animation récemment.
Oui.
L'année dernière.
Oui. Mais c'est vrai que bon, moi c'est le livre de ma vie, parce que c'est vrai qu'il est sorti il y a 10 ans et j'ai eu aussi la chance qu'il ait eu le Goncourt des lycéens, donc il a beaucoup étudié à l'école, et au-delà de mon livre, c'est vrai que je trouve que c'est une femme extraordinaire.
Et le Renaudot aussi.
Oui, le Renaudot aussi.
Faut pas l'oublier.
Mais c'est vrai que c'est une femme qui, pour moi, a une force de courage. Et c'est quelqu'un qui, alors qu'elle traverse tellement de douleurs, de difficultés, va chercher au plus profond d'elle-même la beauté, la création, et c'est très très joyeux et très lumineux, son œuvre.
D'autres événements culturels, oui. Leïla.
On cherche un rassemblement annuel pas commun. D'ailleurs, le record a été battu, le record de participation a été battu, il a doublé par rapport à l'an passé. 1146, voilà, c'est le décompte officiel. Ça a eu lieu fin novembre à Paris. C'était la 4e édition de la Paris Sausage Walk.
Ouais, c'est les chiens sausages.
Ah oui, c'est les teckels.
Absolument. Un rassemblement de teckels.
Ouais.
Sachez que pour un teckel, et je l'ai appris en lisant ce super article de Marc Hervès dans Society, monter les escaliers, c'est synonyme de scoliose quand même. Donc, ce rassemblement de chiens, la 4e édition, rassemble tous les propriétaires et leurs teckels de France. C'est très très à la mode. C'est un chien qui est devenu très à la mode chez les 30-35 ans, plutôt urbain, dans des métiers créatifs. Une saucisse sur pâte qui a la cote pour plein de raisons. Il est très affectueux, il vit relativement assez longtemps.
Et au goût, c'est délicieux.
Environ 15 ans. Il est léger. Il est facile à transporter.
C'est incapable d'un sac.
Oui, c'est ça.
Ben oui.
Et il est facilement accepté, en fait, dans les établissements, oui, parce qu'il est peu encombrant, parce qu'il est un petit peu mignon. C'est pas un
tachon.
Voilà, c'est trop. Voilà. Dans la tête, dans l'imaginaire collectif, tout le monde imagine que tout va bien avec un teckel. Tout ça pour vous demander, dans les trucs bizarres que vous avez pu faire, vous, un rassemblement hors norme, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire.
Venir à cette émission. Pas très bon. Du bigorneau
et monter un escalier.
Tu connais ce rassemblement. Le monde
de teckel.
Il y a été en tant que teckel.
Exactement.
J'imagine que tout ce qui peut sortir un peu du commun, tout ce qui peut frôler un peu la bizarrerie, ça doit vous intéresser en tant qu'auteur.
Oui, bah, quand on écrit, ouais, on traque en permanence effectivement tous les détails, les choses incongrues. Ouais.
En parlant de rassemblement, il y a les jumeaux du monde entier qui se réunissent, les triplés. J'imagine que ça peut être une matière intéressante.
Non, je me suis retrouvé parfois dans des réunions, voilà, de clubs, de lectrices, un peu inquiétante. Voilà.
C'est quoi inquiétante,
hein? J'ai cru que j'allais être kidnappée. Voilà. Vous avez vu Missouri?
Oui, ouais. Ouais, bien sûr. Formidable.
C'est
Stephen King. Ouais.
Voilà.
C'est un super bon début de roman, en fait.
Bah,
c'est
déjà
fait. De roman. On va parler des JO de Paris. Vous n'avez sans doute pas raté cette info. Je vous demande, pour ceux qui connaissent, de ne rien dire.
Ah, bah c'est...
Pour laisser jouer ceux qui ne savent pas, ça peut être drôle. Un célèbre artiste américain va être dépêché sur place en qualité de consultant pour commenter ses jeux pour la chaîne NBC. Je pense que David ne l'a pas. Indice, c'est un rappeur qui s'était déjà livré à cet exercice pour les JO de Tokyo.
Ah oui, c'est Snoop.
Absolument, c'est Snoop. Snoop Dogg, en 2021, il n'était pas à Tokyo, mais il avait commenté quelques épreuves à distance, notamment les épreuves d'équitation avec des saillies.
À quoi va servir la flamme olympique,
hein. Et ben justement, le commentaire de l'équitation en 2021, si vous allez jeter un petit coup d'œil en ligne, je pense qu'il était dans un état second. Et c'est très drôle. C'était très drôle. Cette fois-ci, il viendra vraiment à Paris. Il ira à la rencontre d'athlètes pour des séquences qui s'annoncent déjà prometteuses et pour commenter aussi, j'imagine, des épreuves. David Funkinos, commentateur des JO, quelles épreuves vous choisissez si vous aviez une carte blanche?
Ça serait le foot.
Et est-ce que vous avez un souvenir de JO, d'une épreuve en particulier qui vous a marqué? Souvent, c'est quand on est gamin ou quand
c'est
on a
100
eu
mètres, je crois que c'est vraiment ce qui nous fascine le plus. Et c'est vrai que je me souviens, moi, à 10 ans, les 4 médailles d'or de Carl Lewis.
Ouais.
Ouais, c'est le premier truc qui m'a vraiment marqué.
Qui était d'une beauté folle, en plus.
Ouais, exactement.
Usain Bolt aussi, ça fait partie des.
Ouais, bien
des
sûr.
Icônes.
Mais je crois que c'est l'épreuve. Mais après tout, moi, ce que j'adore, c'est voir des. Voilà, les JO, c'est se retrouver à voir des sports totalement improbables qu'on n'aurait pas forcément regardé.
Il faut être prêt, c'est tous les 4 ans. Enfin, c'est ça qui est incroyable. Tu peux pas te louper.
Et JO plutôt à la télé ou à la maison, tranquillement? Ou se battre un peu pour essayer d'avoir la télé.
La télé surtout, oui.
La vie heureuse, le nouveau roman de David Funkinos. En fait, le sentiment que l'on a après l'avoir lu, c'est de se sentir bien. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas, toi, Leïla, si ça a apporté un bien-être supplémentaire. Est-ce que c'est le but que vous recherchez? Est-ce que d'ailleurs, un roman doit avoir un but? Au-delà de raconter une histoire,
là, oui, alors ça peut être. Alors c'est pas mon but, c'est pas un feel good book, mais en tout cas l'idée que j'adore l'idée que un roman puisse être après le point de départ pour certaines réflexions. Le livre est sorti depuis une semaine, je reçois déjà beaucoup de messages sur le rapport à la mort, sur l'idée de se
divorces.
Dire voilà, de se dire voilà, peut-être oui, peut-être changer de vie, de s'interroger. C'est toujours assez émouvant de se dire voilà qu'un livre puisse être le point de départ de quelque chose d'autre.
Daniel ?
Et on est aussi sur la célèbre phrase « On a tous deux vies et on commence la deuxième quand on s'aperçoit qu'on n'a qu'une, au final. »
Daniel m'a dit qu'après avoir lu mon livre, il allait signer chez RTL maintenant.
Exactement.
Ah oui, c'est vraiment la mort.
Oui.
C'est triste.
Je sais, mais il y a un moment, il faut dire au revoir.
La vie heureuse...
On se reverra, on se reverra.
Comme, on se reverra.
Comme, c'est... comme dans le livre.
Ouais, comme c'est le cas. Ouais, c'est... On respecte. Il y a eu délicatesse, Charlotte, qui des, souvent vos écritures deviennent des pièces de théâtre ou des spectacles ou des films. Ça peut être le cas de La vie heureuse, oui. On voit tellement d'images.
Alors La vie heureuse, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que c'est très très romanesque. C'est une histoire d'amour sur 30 ans, donc ça pourrait... faire un film, en tout cas, sur ce livre-là...
Il y a une allusion faite à Lost in Translation, ouais, aussi.
En tout cas, je vais faire un documentaire. Je vais partir voilà, filmer, parce que ça me passionne, ce rituel. Donc, je vais aller le filmer en Corée. Et puis après, on va le proposer, voilà, c'est dans le cadre du documentaire, ici en France, à quelques personnes, voilà, de vivre ce rituel. Donc, si vous voulez venir le faire, ça serait avec grand plaisir.
Est-ce que vous avez eu peur, d'ailleurs, en le faisant?
Moi, je n'ai pas fait le rituel.
Ah, vous l'avez vu, d'accord. Bah est-ce que là, maintenant, pour le documentaire, vous le ferez?
Non. Moi, j'ai le sentiment d'avoir vraiment vécu.
Oui, ce que vous avez expliqué sur la maladie.
Après,
c'est pas...
oui,
vous l'avez subi, vous ne l'avez pas décidé. Ouais.
C'est vrai que j'ai hésité à le faire, mais peut-être pour le documentaire, oui, ça serait une bonne idée. Oui. Mais j'avais envie de le proposer à quelques personnalités. Donc, Nagui, si vous avez une heure à tuer, si j'ose dire.
Si vous me voyez à côté avec un marteau, pas de panique.
Non, mais
je vais faire ma
part
entièrement.
Ah bah génial.
Non, pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas.
Rendez-vous pris pour le documentaire.
J'ai tellement peur de la mort que peut-être ça serait une manière d'évacuer ce stress-là.
Faut savoir y aller, Nagui.
Ouais, aussi. J'en viens, moi, d'RTL, c'est la différence avec toi.
C'est ça. Résurrection.
Je rappelle le spectacle, la tragique histoire, le destin tragique de cette artiste peintre formidable, Charlotte Salomon, interprétée par à la fois Audrey Tautou et la musicienne en live, Guélane Dorcé. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Mais totalement. Désolé pour nos auditeurs qui ont eu la désagréable impression d'écouter Ali Rabehi dans Grand Bien Vous Fasse, en entendant ce matin parler de changement de vie, d'épanouissement, de confiance en l'avenir. Rien que de le redire, je me sens dégueulasse. Allez, vivement lundi qu'on se fasse le jeu des 1000 euros avec Ahmed Silla et Julia Piaton. Désolé maintenant pour Robert Guédiguian, qui m'a appelé à la peau pour me dire qu'il est en soutien avec Lisa Delmoitier. On dirait, selon lui, camping. Ben non, Bob, comment te dire, à Marseille peut-être, mais en France, je ne suis pas sûr. Désolé enfin pour tous ceux qui ont écouté les 4 premières émissions de la bande originale cette semaine et qui n'ont pas eu droit à une petite formule de savoir-vivre pour les aider à mieux vivre au quotidien. Eh bien aujourd'hui, il y en avait une petite formule art de vivre, formule signée Lisa Delmoitier, je cite, « L'écu, ça doit être mou, sinon on se casse les dents, bon week-end
». La quête de la vie heureuse, une forme d'apaisement aussi, de résoudre les problèmes, de pas s'apesantir de toutes les blessures, les décès, les drames, les séparations du passé. C'est aussi une manière un peu de faire table rase du passé, de se sentir plus léger pour avancer avec cette vie heureuse. Le nouveau roman de David Fuenquinos. Vous n'allez évidemment pas nous dire sur quel prochain roman vous travaillez. Sinon,
là j'ai aucun problème. On est au cœur des répétitions du spectacle Charlotte. Mais j'ai pas de projet.
Si vous avez quelque chose.
À part ce documentaire.
D'accord.
Vous avez des choses à me proposer, Nagui? Non, j'ai pas de nouvelle idée encore.
Non, mais c'est-à-dire que la dernière fois, vous avez dit ça, mais vous l'aviez, cette idée. Donc. Je suis sûr que vous avez toujours une idée quelque part.
Mais là, pour l'instant, non. Rien.
La vie heureuse.
Donnez-moi des idées, écrivez-moi.
On vous la souhaite, en tout cas, cette vie heureuse, David Fuenquinos. Ce roman publié chez Gallimard. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Leïla.
Merci à toi.
Merci, Daniel. Merci à toute la bande.
On se retrouve demain, même endroit, même heure, cette fois-ci avec Manu Payette pour son seul en scène, Emmanuel 2.
Ah, mon émission préférée de l'année, j'y étais pas.
Passez une belle journée sur Internet.